vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 50, bon anniversaire! Chers amis, bonjour. Ah, mais vous savez qu'à la Krutno à Strasbourg, toutes les Alsaciennes parlent chinois, surtout quand le soleil brille. Tsum chun chu lang. Le soleil brille depuis longtemps. Eh bien, avec, vous l'avez bien connu, l'émission de toutes les audaces sur Radio J, nous allons explorer ce sympathique quartier. Et comme guide, nous avons Léa Renaud. Schöni Mädel. Yo Léa, elle est formidable. On l'a déjà entendue ici à la radio. Elle le reçoit bien net. Alors Léa, elle était élève à Saint-Étienne, puis elle a fait les langues eaux à Paris, et puis Sciences Po. Mais quand je l'ai rencontrée, elle dansait sous la pluie. Dancing in the rain. Et quand elle parlait, je comprenais tout.
Bonjour, chère Léa.
Ni hao, Ambroise.
Xiao Liao, 我今天很高兴你接受我的邀请。今天有机会跟你交流在 Radio Judaica 讨论一下一些东西。这里已经有了很多人，我们讨论文学、舞蹈、音乐这些东西，你知道吗？ 在斯特拉斯堡最好吃的奶酪蛋糕是在盖雷路。
Ah, Gaglerlu, c'est là où on fait la très bonne tarte au fromage dans la pâtisserie Nihauma. Alors, l'alsacien et le chinois, c'est un petit peu la même prononciation, cher Ambroise, hein?
Mais tout à fait, Léa. Quelque part, ça se rejoint, hein, ce sont... Deux langues à la fois proches, lointaines, lointaines et proches. Mais dites-moi, chère Léa, pourquoi avez-vous choisi d'apprendre le mandarin ?
Ah, j'ai appris le mandarin parce qu'effectivement, ce sont deux langues toutes proches. Bon, en Alsace, il y a quelques dizaines de milliers de gens qui le parlent. En Chine, quelques centaines de millions. Mais les points communs étant... Bien sûr, c'est un petit peu une blague à l'époque de Germain Müller, de tous ces cabarettistes qui se moquaient des Français de l'intérieur, qui n'arrivaient plus à parler l'alsacien. Et moi, je me suis dit, moi qui parle parfaitement l'alsacien, je vais peut-être apprendre une langue étrangère que je pourrais utiliser en Alsace. Et il se trouve que mon frère est parti et il a fait un Erasmus en Chine. Et je suis allé lui rendre visite et je suis tombé amoureuse de la Chine. C'était un endroit formidable. Ambroise, vous connaissez la Chine ?
Ma foi, un tout petit peu de par mon métier de journaliste. Moi, j'ai pu m'y rendre deux, trois fois. Mais il n'est plus à prouver que vous savez parler le mandarin. On le sait, vous avez étudié au Langzhou. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit quelque chose en alsacien, s'il vous plaît, Léa ?
T'es sécheps-tu ? Ich krebs, ja, ich bin nicht après le kugel.
Oh, ça sonne très joliment, ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion, à Shanghai ou peut-être dans d'autres villes chinoises, de vous rendre au cercle des Alsaciens ? Parce qu'à Shanghai, il y a un cercle des Alsaciens très actif.
Mais oui, Ambroise, je sais que vous-même, vous êtes un membre, mais moi, en tant qu'Alsacienne... Non pas perdu, mais j'ai vécu longtemps en Chine et j'étais membre de l'APA, Association de Promotion de l'Alsace. En fait, c'est une association un petit peu commerciale puisqu'il s'agit de vendre la choucroute et le foie gras. Encore qu'à Strasbourg, on ne fasse plus de foie gras, mais ça c'est une blague. Tout le monde en mange, surtout en Chine. Mais il y a une solidarité de tous les Alsaciens dans la plupart des pays du monde. ils font des petites associations. Alors, il y a des endroits où c'est juste des stammtisches, d'autres endroits, c'est plus la gastronomie ou la confrérie Saint-Étienne pour se taper sur le ventre en picolant des bons vins, en faisant croire que c'est des millésimes formidables. Mais rien ne vaut le Bordeaux. Non, mais je ne dis pas ça en Alsace. Mais autrement, oui, il y a des rencontres culturelles. On invite des Alsaciens comme... Liselotte Ham, Jean-Marie Hummel, par exemple, qui aime beaucoup voyager, Roger Siffer, et qui viennent nous faire des concerts en Chine ou ailleurs, en Mongolie.
Mais comme je vous disais, Ambroise, Léa, moi, Ambroise, en tant que journaliste, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu en Chine, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, vous le disiez très justement. Dans quasiment tous les pays du monde, il y a au moins une association, un cercle, un club des Alsaciens. Parce que ce qui nous lie, on va pas se mentir, c'est la tarte flambée, hein, la flammekuche.
Yo.
Un Alsacien qui se passe de flammekuche plus d'une semaine, il se sent pas très bien.
Non, c'est difficile.
C'est difficile, on est bien d'accord. Donc, je suis très heureuse de voir que en Chine, vous avez eu ce petit rocher auquel vous raccrochez. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'en dehors de la Chine, vous avez eu, vous aussi, l'occasion de gambader à travers le monde ?
Ah oui, j'ai fait des tournées internationales, pratiquement, parce que je fais aussi un peu du spectacle. Je suis allé à Kiel, par exemple.
Ah ben oui, ça c'est international. Vous êtes allé en tram ?
Non, à l'époque c'était en vélo.
Oui, c'est vrai, oui. Ça fait longtemps qu'il y a une passerelle.
Ah oui.
Déjà drôlement bien.
Oui, oui. Non, mais il y a aussi une époque où on prenait la passerelle du train, qui est très jolie, qui ressemble un peu à la Tour Eiffel couchée pour aller à Kiel. Bon, c'était un peu interdit, mais c'est quand j'étais étudiante, on allait faire le soir à 3h du matin, traverser le Rhin, pas à la nage. Parce qu'on sait que c'est difficile. Il y a un copain un jour qui a fait ça, la traversée du Rhin à la nage. Oui, oui, mon copain John. Mais excellent nageur. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'au milieu, il y a des courants terribles et c'est une péniche qu'il a récupérée. Non.
C'est pas deux ragondins, un sous chaque bras.
Non. Mais effectivement, j'ai fait beaucoup de voyages. Et paradoxalement, bon, l'alsacien, ça sert beaucoup hein, quand on voyage en Afrique, en Amérique, partout. Mais le chinois aussi. On parle le chinois. Alors, il y en a qui disent que c'est l'anglais. Hein. Alors, je parle aussi un peu l'anglais. Mais le chinois comme langue... Hein. Vous allez, par exemple, à l'office du tourisme à Strasbourg, on parle chinois.
Ça ne m'étonne pas.
On parle encore un peu l'allemand parce qu'ils amènent leur Deutschmark. Enfin, ils sont tellement rétrogrades là-bas qu'ils pensent qu'il y a encore des euros allemands. Hein. Parce que ça vaut plus. Mais autrement, le chinois, les offices du tourisme, les guides touristiques se mettent tous au chinois.
Et la langue de demain ? Et la langue de demain, pensez-vous que c'est le chinois ? Parce que moi, je suis en train d'apprendre le swahili, le peul et l'inuktitut, parce qu'on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Alors, l'allemand, l'espagnol, bien sûr.
Non, ça, c'est dépassé un petit
dépassé.
Peu.
C'est dépassé.
Il y a maintenant beaucoup de touristes chinois, comme vous le dites, à Strasbourg.
Oui. Alors, les touristes chinois ne parlent pas l'anglais. Mais les touristes alsaciens parlent souvent l'anglais. Donc... ça élargit le cercle de voyage, mais autrement, une langue internationale, malheureusement, avec les iPhones et Internet et tout ça, on dit un mot et puis il est traduit dans une autre langue. On n'a plus besoin de faire l'effort de s'adapter à une langue parce que une langue, ce n'est pas seulement de la communication pour se faire comprendre, pour demander où est la gare, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on dit où est la gare, s'il vous plaît, en chinois, cher Ambroise, puisque vous aussi, vous le parlez très bien.
Oh, Ambroise. Moi, Ambroise, en tant que journaliste, ça fait déjà très longtemps que je n'ai plus pratiqué le chinois, mais vous allez me dire, peut-être me corriger.
Where is the station, please ?
火车站, 在哪儿? Dites-moi, Léa, est-ce que l'accent est encore bon ?
L'accent est bien, mais c'est plutôt un accent cantonais, non ? Non ?
C'est que j'ai passé un petit peu de temps, effectivement, dans le sud de la Chine. Peut-être que ce sont les restes.
Voilà. Alors, ce que je voulais dire, donc, une langue, ce n'est pas seulement de la communication, c'est avant tout une culture. C'est une tarte à la crème, hein ? ou une tarte au fromage, de dire ça. Mais apprendre une langue, c'est avant tout s'approprier une culture, s'approprier ou découvrir ou analyser ou lire, prendre le plaisir de découvrir une autre culture.
Mais c'est très bien que vous en parliez, Léa. On s'est déjà rencontrés à diverses reprises dans des théâtres. Vous pratiquez la danse. Je vous ai vu à maintes reprises sur les scènes du théâtre de Haute-Pierre.
J'adore ça, oui.
À la cathédrale, dans des jardins. Donc, vous parlez de langue. Parlons un petit peu de peut-être la langue du corps.
Oui, la langue du corps.
Elle est sans parole, mais elle est elle aussi très importante.
C'est très expressif. Et aimer la danse, c'est formidable pour soi parce que on a son corps qui bouge et parce qu'on se perfectionne et parce que c'est une espèce de vie intérieure qui est formidable. Je sais, Ambroise, que vous avez pris des cours de danse classique à l'école municipale de Strasbourg avec Jean Garcia.
Oui, oui.
J'ai vu ça, oui, oui. C'était il y a bien longtemps et vous étiez figurant à l'Opéra du Rhin. Dans Boris Godunov, j'ai lu ça dans...
Oh, oui, que oui. De souvenirs, que de souvenirs, Léa,
mais
vous me rappelez là.
Regarder de la danse et l'apprécier, c'est aussi quelque chose de très important. Et vous avez raison de dire, cher Ambroise, que c'est un langage. Parce que vous écoutez un texte en latin, vous lisez La guerre des Gaules en latin, ben, vous ne comprenez rien. Mais si vous avez appris le latin à l'école et que vous le comprenez, c'est... absolument formidable. C'est jubilatoire. C'est formidable.
Pensez-vous alors qu'à l'école, il faudrait imposer des cours de danse à tous les élèves ?
J'aime pas le mot imposer, mais oui, absolument. Apprendre à regarder de la danse, apprendre à apprécier la subtilité d'un geste, le mouvement qui s'arrête en l'air et qui retombe, la retenue, la sobriété qui fait qu'on s'exprime de façon... que la contrainte devienne... une expression et que la contrainte ait du sens. Ça, je trouve formidable. C'est comme boire du vin. Il y a des gens qui disent, bah oui, c'est pour se bourrer la gueule et tout. Mais non, boire du vin, si on est un peu œnologue, si on a fait des cours de dégustation, de faire la différence entre un Gewürz et un Muscat, mais c'est absolument formidable. C'est comme apprendre une autre langue, c'est comme visiter un autre pays. Et ça, c'est formidable. Et pour la danse, c'est pareil. Je pense qu'on devrait donner... on devrait faire des cours de danse avant les spectacles, comme faire des cours de musique, même pour les gens qui ne sont pas musiciens, avant d'aller à Musica. Musica, bon, Strasbourg, c'est quand même absolument génialissime que Strasbourg ait ce festival Musica de musique contemporaine. Même si on n'a jamais fait de violon, de piano quand on était gamin, si on ne sait pas lire une partition... soit on va à un concert de musica et on entend boum, boum, que des bruits et c'est exaspérant, on ne comprend rien et puis on part au premier entracte, soit on apprend à comprendre l'écriture de la musique, on apprend à comprendre cette culture différente et là ça devient complètement jubilatoire. On voit des... enfin, c'est quelque chose de formidable. Eh bien, apprendre une langue, le chinois, c'est pareil. Et faire de la danse, c'est effectivement une autre langue, c'est absolument pareil. Mais une langue se nourrit souvent d'autres choses que le truc spécifique qui est la communication. Par exemple, moi, je fais de la danse. Moi, Léa Renaud, je suis une danseuse presque professionnelle, je fais des spectacles. Mais cela vient aussi du fait que j'ai fait de la gymnastique. Ce sont des choses parallèles qui se complètent.
Oui. Oui, oui, oui. Mais vous nous parlez de la danse, de la musique, des langues, avec énormément de poésie, de passion. Ça a l'air si simple et si évident pour vous. Mais j'ai lu dans votre biographie que vous avez finalement commencé très tard la danse. Vous aviez déjà 13 ans pour de la danse. Vous avez commencé en même temps la gymnastique. C'est très tard. Quelles ont été... Nous sommes dans une émission ici sans contraintes. Quelles ont été vos contraintes d'apprendre si tardivement ?
Alors, c'est une excellente question, cher Ambroise. Vous êtes un très bon journaliste. Beaucoup d'enfants, lorsqu'ils apprennent une langue où ils font de la gymnastique, où ils ont piscine, où « Ah non, je peux pas, j'ai poney ce soir » et tout. C'est une obligation par les parents qui pensent que ce sera mieux pour l'éducation de leurs enfants. Et donc, vers 5-6 ans, ils les mettent au piano. Et puis, éventuellement, un truc un peu plus qu'on croit plus difficile, mais c'est plus facile, le violon. Et ils ont piscine le mercredi. Ils ont promenade et ils sont dans différentes associations. Et la maman et le papa deviennent papa taxi pour conduire les enfants et tout. Et parce que maintenant, on ne peut plus aller tout seul, même à 500 mètres de la maison, quand on a 6 ans. Alors que, voilà, bon, nos parents, hein, dans les années 1950-1960, il n'y avait jamais les parents qui les accompagnaient. Ils se débrouillaient tout seuls. Mais donc, commencer à 5-6 ans, souvent on arrête ensuite à 12-13 ans. Parce que, simplement pour se rebeller contre ses parents. Tous les enfants qui écoutaient la radio en ce moment, dites-vous bien qu'à 12-13 ans, tirer la langue à ses parents, c'est très bien. Il faut savoir dire non à ses parents. Et alors ils vous demandent, mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Mais voilà, mais regarde-moi, j'ai fait ça et tout. Vous dites non. Il faut toujours savoir dire non aux parents. Même si vous-même, vous ne savez pas, il faut apprendre à désobéir. C'est une chose formidable. Et même les grands, hein, même les épouses à leur mari, de temps en temps, on dit oh non, on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas rationnel, c'est comme ça. C'est la liberté, comme il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de faire des choses. Tant que ça ne bousille pas tout de façon matérielle dans la famille ou dans le club ou dans l'association, voilà. Et donc moi, à 12-13 ans, je me suis dit, ah ben je vais faire comme les copines qui ont commencé à 7-8 ans.
Vous avez dit oui, mais à 13 ans.
J'ai dit oui à 13 ans.
Oui à la danse, oui à la gymnastique.
C'était mon esprit de contradiction de dire oui quand on s'attendait que je dise non, parce que mes parents ont un esprit très ouvert, ils sont anticonformistes. Et donc, une petite fille comme moi, Léa, bon, alors moi, il faut dire aussi que j'ai 5 sœurs et 3 frères. Donc, famille nombreuse, on est un petit peu noyé dans la masse. Donc, je me suis dit, je fais ce que j'ai envie et je le fais. À une condition, c'est bien le faire. Et ça, c'est compliqué.
Et là, moi, je me rappelle, moi, Ambroise, à 13 ans, faire un grand écart comme ça, du jour au lendemain, ben, ça n'aurait pas été possible. Ou j'avais pas franchement un super méga corps d'athlète. Comment on fait que le régime alimentaire, comme ça, du tout au tout?
À 13 ans, je sais pas. Les garçons, souvent, ils font plutôt du jogging, hein, ou ils font du basket, ou du foot. Et tout.
Moi, j'ai de l'aquaponie.
Ou de l'aquaponie. Ah, parce que les poneys, ça va dans l'eau. Oui, je ne sais pas.
Si, tout est possible.
Oui, au lac de Achard, là.
Tout à fait, au lac Achard. Il y en a beaucoup des poneys dans l'eau. Oui. Quelle activité. Oui.
Mais vous savez, moi j'ai lu votre petit bouquin, Ambroise. J'ai vu que vous aviez commencé la danse seulement à 18 ans. Alors, je me suis dit... Vous deviez être amoureux d'une danseuse, et c'est pour ça que vous êtes allé faire de la danse. Et comme, bon, moi, danseuse qui fréquente tellement les salles de danse et tout, quand il y a un garçon, même s'il est très mauvais, on le garde parce qu'il y en a tellement peu, et on a besoin de garçons pour faire les porteurs, hein, dans les spectacles. Donc
vous m'avez démasqué, Léa.
Un mauvais garçon restera dans un groupe de danse beaucoup plus qu'une fille moyenne à qui, on va dire, travaille toute seule à la maison et revient plus tard. Ça,
comme
c'est l'injustice, hein, pour
ça,
la danse.
C'est l'injustice du sexe, oui. Un garçon sera toujours beaucoup plus facilement intégré dans une école ou dans un cours de danse, parce qu'effectivement, toutes les filles veulent danser, peu de garçons veulent danser. Et vous avez raison, elle était ukrainienne et elle était très belle.
Oui, effectivement. Mais à l'époque, on pensait que la vie était belle, que l'Ukraine, c'était très loin et qu'il n'y aurait jamais plus de guerre parce que c'était dans les années 60, 70. On se souvenait encore des récits de nos parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était un temps d'insouciance. C'est ça aussi qui est formidable. Apprendre le chinois... Donc, ou la danse, ou la gymnastique, sans penser à des utilités, mais simplement par insouciance. Se dire, ça me plaît, je le fais.
Et à ce propos, je pense à une connexion entre vos deux passions, à la fois la Chine et la danse. J'ai lu, puisque j'ai bien fait mon travail de journaliste, que vous, Léa, avez participé plusieurs fois au fameux concours interculturel Hanyutiao et que vous avez remporté à ce titre, à plusieurs reprises, le prix artistique pour des performances de danse traditionnelle chinoise. Comment, après avoir pendant plusieurs années pratiqué et appris uniquement la danse contemporaine, on se lance dans la danse traditionnelle chinoise qui exige énormément de jeux de regard, de travail dans les doigts, beaucoup de souplesse. Déjà, la danse contemporaine ou n'importe quelle danse demande de la souplesse, mais on connaît les corps de ces Chinoises qui se tordent dans tous les sens. Comment vous avez appréhendé cette discipline, somme toute un peu nouvelle, avant de vous lancer dans vos concours ?
Alors, Ambroise, ça, je vois que vous avez bien étudié mon dossier. Effectivement, à un moment, on cherche la perfection. On a envie de faire pour le mieux parce que c'est le degré supplémentaire à la jubilation. Ce qui était assez... Alors, j'ai fait des stages, effectivement, en Chine. Alors, ce qui était assez amusant, c'est que moi, avec ma tête d'Alsacienne et mes nattes blondes, on essayait de me barrer, on parlait un petit peu en anglais et truc, et puis ils étaient très étonnés que je parle couramment leur langue. Ah, on le regardait. Et je partais avec une copine formidable, une Alsacienne pur sucre aussi, mais il se trouve qu'elle est née en Chine et qu'elle elle est un visage chinois, et tout le monde s'adressait à elle en chinois, et elle ne parle pas un mot de chinois.
Et puisque... elle parle alsacien, du
et
coup.
Et elle parle alsacien, bien sûr, et tout. Hein, ma copine Alicia. Donc, c'était un petit peu paradoxal. Les gens regardaient avec un petit air circonflexe, et puis après, ça partait tout de suite. C'était le rire, c'était... On admet ça. Et donc, effectivement, j'ai fait de la danse traditionnelle chinoise, d'abord en Chine, en me disant... Eh ben, je vais faire des spectacles à Strasbourg de danse traditionnelle chinoise et tout. Et finalement, et ça c'est la deuxième leçon de ma jeunesse, il faut savoir tout d'un coup changer. Alors, quand on a un bon copain, on le garde, on essaye, ou une bonne copine. C'est pas toujours le cas, c'est compliqué. Quand on a un bon boulot, c'est pareil, on essaye, on aime bien un peu la routine et tout. Mais arriver à Strasbourg, j'ai fait effectivement pendant une année ou deux de la danse chinoise. J'ai rencontré des gens qui faisaient de la danse indienne aussi. Les gens confondent hein, la Chine, l'Inde, les Philippines.
Oui, c'est loin, Mani, c'est loin. L'Orient.
On a un copain qui est parti à Mani. Bon, maintenant, on se demande.
Mani au Népal.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, d'ailleurs, lors d'une tournée. Aux États-Unis, on m'a dit tu viens d'où ? J'ai dit ben je suis française. Elle me dit ah oui, la France c'est entre le Danemark et le Brésil.
Hein, voilà. Et c'est Strasbourg ça. En Allemagne. Et
Strasbourg en Allemagne, bien sûr. Eh bien, comme il faut toujours savoir changer, eh bien je me suis mis à faire de la danse contemporaine parce qu'à Strasbourg j'ai trouvé une compagnie de danse formidable. Hein, j'utilise souvent le mot. Ça s'appelle le Carré d'Art.
Et J'en ai entendu parler, et comment, c'est très connu à Strasbourg, le carré d'art, des spectacles d'une qualité impressionnante.
Ben voilà, donc j'ai fait partie de cette troupe du carré d'art, je crois même, là vous êtes très modeste Ambroise, que vous avez une fois écrit un texte sur un de ces spectacles.
Il est vrai, mais j'ai été simplement subjuguée, c'est un travail d'une précision incroyable, à la fois sur scène et aussi en photo, dans des livres, parce que le carré d'art, ce n'est pas qu'une compagnie qui se produit sur scène, c'est aussi une compagnie qui travaille dans les livres.
Et avant tout, pour le plaisir.
Et c'est bien sûr, ça. Le plaisir.
Parce que...
C'est le maître mot.
Les livres, en fait, on a commencé à faire des livres parce qu'avec le Covid, on ne pouvait plus faire de spectacle, on ne pouvait plus monter sur scène. Et donc, on a continué à faire des spectacles, mais tous masqués, qu'on enlevait au dernier moment et tout, dans des lieux différents, des parcs, les bancs de Strasbourg, les voies ferrées oubliées de Strasbourg.
Quelle parenthèse de bonheur dans cette crise du Covid, Léa. Quelle chance d'avoir une telle expérience, non ?
Mais c'est ça. C'est le plaisir qu'il y ait toujours quelque chose de positif à retenir dans les péripéties de la vie. Et c'est, comme je disais avant aux enfants, il faut apprendre à dire non. Et plus tard, quand vous aurez le souvenir, la mémoire de ce que vous avez su dire non à vos parents et que vous avez survécu, entre guillemets, à ce qu'on va appeler la crise de l'adolescence ou des bêtises comme cela, vous allez redécouvrir autre chose encore, peut-être exactement le contraire de ce que vous aviez rejeté avant, et vous allez prendre du plaisir à le faire. Et c'est ça qui est formidable. C'est comme se plonger dans un bouquin. Je sais pas, à 15 ans, le prof vous oblige à lire du Proust. Et à 20 ans, vous replongez dedans. Et c'est une telle jubilation.
Sachez, Léa, que j'ai eu énormément de plaisir à signer Ambroise Perrin, ses articles sur le carré d'art, sur la danse. Ce sont des moments magiques et pleins de bonheur et de plaisir.
Voilà. En tout cas, Ambroise, merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci à vous, Léa, d'avoir été avec moi.
Non, mais vous savez, je viens souvent à Radio Judaïka pour parler dans cette émission formidable. J'aime beaucoup cette ambiance de convivialité, de complicité. Et franchement, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le générique de cette émission. C'était l'épisode numéro 50. Shaolea chun chun chu lange uf chine sich. Bon, là, je l'ai dit avec l'accent alsacien. Aujourd'hui, nous avions Léa Renault comme invitée. Vous l'avez bien connue, une émission sans contrainte ni personne. Diffusion tous les mardis à 11h30, rediffusion le dimanche à midi. Et aujourd'hui, à la technique, c'était Thomas Marinelli. Bon, ciao, Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever.